Voilà, venu le temps de la parole que nous sommes venus écouter, avant de l'entendre, je vous invite à un moment de prière. Mais notre Dieu, tu nous as encore ce matin donné rendez-vous dans ta parole. Nous, nous pensons t'avoir rencontré une fois pour toutes, comme si toi, tu ne venais pas sans cesse nous parler, frapper à notre porte, nous inviter. Permets donc que nos rendez-vous avec ta parole deviennent de vraies rencontres. Ce matin, nous venons à toi avec nos inattentions, avec nos pensées distraites et les soucis qui nous agitent. Donne-nous de nous poser, de nous concentrer et de cesser de voltiger comme l'oiseau qui se heurte et se blesse aux barreaux de sa cage. Donne-nous par ton esprit d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter maintenant devienne des conseils de vie pour notre bon vivre ensemble. Ensemble et d'un même esprit, nous t'en prions. Amen. Eh bien, je ne ferai qu'une lecture ce matin dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. Jésus dit encore : Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde qu'on sème en terre et qui est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte et devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Notre Dieu, tu as les paroles de vie et de lumière pour être un guide sur notre route. Béni sois-tu pour cette parole qui nous accompagne et nous éclaire. Amen. Lorsque nous regardons nos églises en ce début de XXIe siècle, dans notre vieille Europe, il est bien possible de ressentir un certain découragement. de trouver que le christianisme est en perte de vitesse, en déclin. Moins de gens au culte, moins d'impact dans la société, des églises en général, et plutôt pour la France ou les pays du Sud, plutôt vieillissantes, une indifférence générale aux choses de la foi, de Dieu, de l'Église. On entend parfois alors « c'était mieux avant », on l'a entendu souvent celle-là. Ce constat touche le protestantisme historique, mais pas seulement. Les catholiques ont le même sentiment, et évidemment ce n'est pas pour nous consoler, bien entendu. Mais voilà, l'évangile d'aujourd'hui semble vouloir nous inviter à voir au-delà de ce tableau un peu noir et nous rappeler qu'au-delà des apparences, il y a des vérités dans ce monde qui nous échappent. Le texte d'aujourd'hui nous parle du royaume et il n'en parle pas en termes de déclin, mais en termes de croissance. Pour cela, il emploie deux images prises dans la nature, comme souvent dans les évangiles. Ce sont deux courtes paraboles, très proches l'une de l'autre. L'une nous donne l'image du blé, de ce blé qui pousse indépendamment de ce que fait le cultivateur, qu'il dorme ou qu'il soit debout la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment, nous dit le texte. Le cultivateur ne sait pas comment le royaume se développe, ça échappe à sa conscience, mais le royaume se développe. L'autre parabole donne l'image de la moutarde dont la graine est toute petite mais produit une grande plante. La graine de moutarde était à l'époque la graine la plus petite connue. Il fallait imaginer 750 de ces graines pour arriver à faire un gramme peut-être. Vous pouvez imaginer ce que ça représentait. Et l'arbre qui naît de l'une d'entre elles atteignait jusqu'à 4 mètres de haut, donc c'est quelque chose d'assez énorme, jusqu'à ce qu'elle devienne plus grande que toutes les plantes potagères, et elle donne de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Alors c'est peut-être parce que ces deux petites paraboles disent des choses analogues que les autres évangiles synoptiques n'en ont gardé qu'une sur les deux. La première ne se trouve que chez Marc. Alors voyons en tout cas ce que ces petites histoires pourraient nous dire aujourd'hui. D'abord, c'est une évidence, les deux paraboles parlent de la croissance dans la nature. Les plantes, les arbres, les fleurs, tous les végétaux grandissent et se développent. Leur croissance trouve leur origine dans une simple graine. Et si le ciel leur donne l'eau et le soleil nécessaires, les plantes, les arbres, les fleurs poussent, quelles que soient les circonstances extérieures. Pourtant, à l'œil nu, nous ne voyons rien. Cette croissance, nous ne la voyons pas. Et nous ne la voyons pas non parce qu'elle serait imaginaire, mais elle nous échappe parce que, tout simplement, elle est très lente. Alors je dis ça, mais vous voyez les pivoines qui sont là, hier c'était des petites boules. C'était 9 petites boules, mais toutes serrées comme ça. On a acheté un bouquet, on s'est dit ça sera jamais bon pour aujourd'hui. Et en fait, dans l'après-midi même, la première s'était épanouie, mais je me suis dit, c'est incroyable, il s'est passé quoi, peut-être 2 heures, et en 2 heures, de la boule, on avait la fleur. Je me suis dit, si je me pose devant, je vais arriver à voir quelque chose. Eh bien, je n'ai pas vu ça, parce que c'est vraiment lent, malgré tout, même si c'est très rapide, voilà, si on le met en accéléré. Mais imaginez, notre œil n'est pas capable de saisir un mouvement très lent comme ça, il est impossible pour vous et pour moi, de voir vraiment une plante grandir. Dans l'histoire de l'humanité, il aura fallu attendre le cinéma pour arriver à voir une plante ou une fleur s'épanouir complètement. Alors imaginez, en ces millions d'années, nous sommes des privilégiés, on ne s'en rend pas compte, mais voilà, on peut voir ça, vous savez, sur Internet, ou ces fleurs qui naissent devant nous, comme ça, qui grandissent, qui s'épanouissent, qui blossomment devant nous. C'est très beau à voir, mais c'est tout récent dans notre histoire. Si nous ne voyons pas la croissance d'une plante, c'est donc parce que nous sommes dans la temporalité qui est la nôtre. Et cette temporalité dans laquelle nous sommes enfermés nous fait tantôt penser que tout est instable et que tout change constamment, tantôt que rien ne bouge, comme c'est le cas avec la croissance des végétaux. Mais c'est une illusion, avant la fleur sur laquelle se poseront les papillons, avant la plante qui donnera des fruits, avant l'arbre qui donnera son ombre, il y a une graine, une simple graine, et inexorablement, la graine donnera la plante qui est inscrite en elle. Et la plante ne cessera de croître jusqu'à maturité. Mais qu'est-ce qui fait que cette plante ne cessera de croître ? Rien d'autre que la force de la vie, cette force de la vie dont personne n'a encore su vraiment pénétrer le secret et le mystère. C'est cette force de vie qui l'a fait germer et croître jusqu'à maturité, cette force de vie qui est contenue à l'intérieur de la graine. Cette force de vie, moi, que je comprends en fait comme étant Dieu. En fait, quand je parle de Dieu, cette force de vie, c'est ce à quoi je pense. Voilà, peut-être, c'est ce qui donne tout cet élan de vie, alors que peu importe les situations, nos histoires sanitaires, etc., on a vu ce printemps arriver comme ça, et c'est inexorable, on ne peut pas arrêter ça. Cette force de vie, je l'associe très volontiers à ce que je pense de Dieu. Et cette puissance de vie, elle est inclue dans toute graine, quelle que soit sa taille. Toute graine dispose de cet énorme potentiel qui est inscrit en elle, dans son principe interne. Toute graine dispose de cette force de vie. Toute graine est programmée pour donner telle fleur, telle plante, tel arbre. Et mes amis, si cette force de vie est au cœur des végétaux, elle est aussi au cœur du royaume. Comme une plante, un arbre ou une fleur se développent grâce à la force de vie qui est contenue dans leurs graines, le royaume de Dieu est appelé à croître, à grandir grâce à la force de vie qui est en lui. Il est appelé à croître quelles que soient les circonstances. Alors non pas grâce à nos efforts, à nos plans, à nos propres forces, à nos sacrifices ou à nos stratégies, mais grâce à cette force de vie qui est en lui et qui agit dans la nature. C'est une puissance de vie, vraiment. Ainsi, la première chose que nous disent ces deux paraboles sur le royaume de notre vieille Europe au début du XXIe siècle, c'est peut-être d'abord que le développement du royaume ne dépend pas de ce que nous faisons, pas plus que la croissance du blé ne dépend de ce que fait ou pense le cultivateur. Le développement du royaume est entièrement dans les mains de Dieu. Donc, nous pouvons avoir confiance et nous pouvons regarder notre époque quand même avec la sérénité voulue, même quand il semblerait que nos églises sont en péril. Ainsi, ces deux paraboles nous rappellent que le développement du royaume n'est pas visible de manière immédiate, et cela pour diverses raisons. Bon, on a vu que parce que nous avons besoin d'une longue durée pour le voir se développer, parce que nous ne regardons pas toujours là où il faudrait, ça arrive aussi, ou parfois nous nous arrêtons à des détails et du coup nous manquons de voir l'ensemble. Alors non, le royaume de Dieu n'est pas en régression, mais nous avons une vue partielle, notre vision est limitée par le temps et l'espace. Nous nous souvenons bien sûr au passage que le royaume de Dieu dont parle Jésus ne doit pas être confondu avec l'Église. Alors ce n'est pas l'Église ou ce n'est pas seulement l'Église, ni notre Église locale, ni l'Église catholique, ni orthodoxe, ni même protestante à Londres, à Paris, en France ou ailleurs. Le royaume de Dieu dépasse l'Église et déborde les frontières de l'espace et du temps. Il a ce caractère d'universalité qui nous relie aux humains de tous les lieux et de toutes les époques, par-delà le temps et l'espace. Le chien aboie, la caravane passe, et aucune force humaine n'y peut rien. Rien donc ne signale aux yeux des hommes la présence d'un royaume en extension, en expansion, et pour cause, si Dieu ne se démontre pas, il ne se voit pas non plus, et la réalité de son royaume passe inaperçue aux yeux des hommes. Mais par la foi, nous pouvons considérer que, malgré les apparences et les perceptions limitées que nous en avons, le royaume de Dieu ne cesse de croître. Et il n'attend pas après nous pour s'épanouir, et ça c'est une bonne nouvelle. Cependant, nous pouvons, chacun de nous, participer à cette croissance. Nous y sommes invités parce que ça fait sens, tout simplement. Ça fait sens ne serait-ce que pour nos vies. Enfin, il y a un aspect peut-être plus intime pour l'être humain qui écoute ces paraboles. Il arrive qu'en regardant la beauté du ciel, devant le nombre incalculable d'étoiles ou devant la profondeur des océans, le non-croyant se met à saisir un peu par intuition de la grandeur de Dieu. Et il constate que ces beautés plaident en faveur de son existence. Il arrive qu'un jour, sans que rien ne l'y ait préparé, la conscience du divin s'impose à leur esprit comme une évidence. Et ils se mettent à considérer que ce que leur logique récusait jusqu'alors pouvait se mettre à être considéré comme une réalité envisageable. Cette aventure, d'ailleurs, n'arrive pas évidemment à tout le monde, mais elle arrive suffisamment, chez suffisamment de personnes, pour qu'elle retienne en tout cas notre attention. On peut même dire, mais après coup seulement, que la chose se préparait à l'intérieur, depuis longtemps, qu'il y avait quelque chose en eux qui travaillait. Tout se passait comme l'action d'un grain enfoui dans la terre et dont le germe, au bout d'un moment, et on ne sait trop pourquoi, se met à pointer et à poindre. Tout ce qui vit sur terre semble procéder du même schéma. La vie active, avant même que quiconque ait pris conscience de sa réalité, on s'en doute, la connaissance de Dieu suit ce même mouvement, est entraînée dans ce même mouvement. Tout ce qu'on peut savoir sur Dieu grandit de la même manière, germe de la même manière. La foi semble se manifester dans l'homme après une mystérieuse et parfois lente maturation spirituelle en lui. Il ne sait pas toujours d'ailleurs retracer les étapes, mais on peut se demander si ce mystère de la vie et le mystère de Dieu, de la foi, si ce ne sont pas deux mystères qui suivent le même chemin. D'ailleurs, ne serait-ce pas ce que raconte Jésus dans ces deux paraboles ? Parce qu'il semble nous dire que la foi a des origines profondément enfouies dans le cœur de l'homme et se développe sans qu'on y prenne garde jusqu'au jour où elle germe et se révèle et du coup prend un peu plus d'espace dans les pensées et dans le cœur. Dieu qui avait fait sa demeure en nous et qui se lovait comme ça dans notre inconscient cherche par tous les moyens à trouver le chemin de notre conscience et quand il y parvient, alors il occupe tout l'être. Et il oriente notre vie vers le meilleur de nous-mêmes. Jésus, ici, rend compte donc de ce qui se passe en nous lorsque nous nous ouvrons à la foi, et il semble considérer l'éveil à la foi comme quelque chose de possible pour tout un chacun. Il est vraisemblable qu'il peut y avoir dans la vie, évidemment, des obstacles qui peuvent s'opposer à la germination de la foi ou à son développement, à l'épanouissement de la foi. Mais dans la plupart des situations, c'est l'homme lui-même qui produit ces obstacles en lui. Il peut se forger intellectuellement, par exemple, une image d'un Dieu qu'il n'a pas envie d'aimer, qu'il n'a pas envie de suivre, qu'il ne peut accepter. Peut-être l'image d'un Dieu juge, d'un Dieu vengeur, d'un Dieu que sais-je. Il peut vivre aussi dans une société ou dans une réalité qui lui est donnée. Dieu provoque en lui un dégoût dans la manière dont il est imposé, dont il est prêché. Et on peut comprendre tout ça. La notion alors du coup du divin en lui est fortement abîmée, affectée. C'est donc souvent les hommes eux-mêmes, par leur idée préconçue, qui empêchent la manifestation du divin en eux. Pourtant, la pratique de la Bible nous enseigne que Dieu multiplie les occasions de se faire connaître et ne désespère jamais d'atteindre la conscience de chaque individu. Il agit dans le secret de chacun, et nul ne prend conscience de cette action de Dieu en lui que lorsque, du coup, elle s'impose à lui de manière un peu plus manifeste et probante. La méthode de Dieu semble être donc de semer avec persévérance, semer avec générosité à tout vent et faire confiance en laissant le soin au hasard de prolonger son action. Ce qui se passe dans cette parabole, c'est ça, et pas autre chose. Les choses se passent sans qu'on les voie agir, et l'action de Dieu se fait dans le secret du cœur de l'homme, sans qu'on puisse en établir les règles. Il engage chacun de ceux qui croient à entrer dans ce vaste mouvement où le secret, Dieu, le hasard, tout ça joue un rôle sans que les hommes puissent vraiment savoir comment ça marche. Alors bien entendu, mes amis, pour le chrétien, l'étincelle qui donne à la fois sa réalité, c'est l'écoute de la parole de Jésus. Le croyant, en s'appuyant sur l'Évangile, il découvre l'enseignement qui transforme la vie et qui la construit. La parole de Dieu devient alors efficace en lui et requiert un niveau d'écoute, un niveau de réception, et peut-être même deux niveaux. On pourrait dire que le premier consiste à laisser faire les choses, et c'est ce que nous avons dit tout au long de ce propos, la parole de Dieu se répand par tous les canaux possibles, souvent même ignorés des hommes. Elle agit, voilà, comme la semence jetée à terre, elle germe selon les hasards du moment, et les hommes en sont imprégnés, ceux qui l'entendent, ceux qui la reçoivent, ils en sont imprégnés et du coup la favorisent ou pas dans sa progression. Et puis, pour ceux qui l'écoutent alors et qui la reçoivent avec joie, à cela Dieu réserve une deuxième approche. C'est le deuxième niveau que le texte de ce jour nous révèle dans sa dernière phrase, qui est adressé aux disciples, à ceux qui reçoivent avec joie. À cela, il expliquait tout en privé, en particulier. Le message se fait alors personnel, il agit dans la conscience de chacun, et chacun devient apte à comprendre Dieu qui lui parle, et qui lui parle dans son cœur. C'est là ce que fait le Dieu Esprit, dans le cœur de celui qui l'écoute. Amen.